morts et au moins 30 blessés à l'est du pays. Donald Trump, qui mène lui une guerre contre Harvard, le président américain menace de priver à nouveau l'université de la côte est des États-Unis de subventions fédérales et du droit d'accueillir des étudiants étrangers. Harvard enseigne la haine et l'imbécilité, a-t-il déclaré 2 jours après avoir supprimé une aide de plus de 2 milliards de dollars à l'institution. Le président chinois est arrivé au Cambodge, dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Xi Jinping a d'abord visité le Vietnam, puis la Malaisie pour tenter de resserrer les liens de Pékin avec ses partenaires commerciaux locaux face aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. 2 Français dans la liste des 100 personnes les plus influentes de 2025 dans le magazine américain Times. Gisèle Pelicot, devenue un symbole des victimes de viol, et le nageur Léon Marchand qui a remporté 4 médailles d'or en natation aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. Direction désormais la Bourse de Paris. Avec vous Céline Pentex, bonjour. Quelle est la tendance ce matin à l'ouverture?
Bonjour Chloé, c'est une baisse ce matin, moins 0,2%, 7313 points pour le CAC 40 en cette dernière séance de la semaine, car la Bourse de Paris ferme ses portes ce soir à 17h30 pour ne rouvrir que mardi à 9h, et ce en raison des fêtes de Pâques. Pour autant, la séquence pourrait être animée, pas une journée sans un rétropédalage de Donald Trump ou alors une nouvelle taxe ou une restriction à l'export comme celle qui frappe désormais les puces H20 de Nvidia. Le géant californien devra obtenir une licence avant tout envoi vers la Chine. Hier, le titre était malmené à Wall Street. Il a perdu jusqu'à 10% en séance avant de clôturer à moins 6,9%. AMD, qui fait face exactement à la même sentence, a également chuté de 7,4%. Tout cela met les banques centrales dans une situation bien délicate. Jerome Powell, le patron de la Fed, s'est exprimé hier soir et il a dit tout haut ce que tout le monde sait tout bas. La politique douanière de la Maison-Blanche va faire mal aux États-Unis, mais aussi en dehors des États-Unis. Cet après-midi, c'est une autre banque centrale qui sera à la manœuvre, la BCE, dans la zone euro. Décision sur les taux à 14h15. Elle devrait baisser ses taux de 25 points de base et ramener donc le taux de dépôt à 2,25. Côté valeur, on notera que l'équipementier Forvia annonce un plan d'action et d'économie pour contenir justement l'impact des droits de douane américains. Pour finir, je vous rappelle l'ouverture à Paris, une baisse, moins 0,2% à 7313 points.
Merci beaucoup, 9h02 sur Radio Classique. La suite de la matinée, c'est avec Franck Ferrand.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Olympie, dans l'est du Péloponnèse. On est au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a toute une foule qui arrive. Elle arrive de toute la Grèce, vers l'Altis, vers le bois sacré où s'élèvent les temples d'Héra et de Zeus. C'est ici que depuis maintenant plus de 300 ans, la première édition avait lieu en 776 avant Jésus-Christ, c'est ici que des athlètes venus de tout le monde grec se réunissent pour participer aux fameux Jeux Olympiques. Seulement aujourd'hui, c'est pas tant la majesté des sanctuaires, les exploits des athlètes qui captivent les esprits, il y a un homme qui est là, debout sur une estrade, il attire tous les regards, il s'appelle Hérodote, d'Halicarnasse.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est vêtu sobrement, le front dégagé, la voix claire et posée. Il lit des extraits de son histoire, Historia. Historia en grec, ça veut dire l'enquête. Un livre qui va devenir la première œuvre historique connue de l'humanité. Face à lui, les auditeurs, debout ou assis sur des blocs de pierre, retiennent leur souffle. On écoute les récits des guerres médiques qui ont opposé les Perses aux Grecs 40 ans auparavant. On s'émerveille des coutumes de peuples lointains, car il est allé les chercher loin, tous ces, Toutes ces histoires, on frissonne devant les caprices des rois orientaux. L'histoire, pour la première fois, est racontée avec méthode. Elle prend forme comme une fresque grandiose tissée d'hommes. Tabor, un extrait de « Ma patrie » de Smetana par l'Orchestre Philharmonique Tchèque sous la direction de Jiří Bělohlávek.
Vous écoutez Radio Classique.
Et oui, les Jeux Olympiques n'ont pas toujours été consacrés uniquement au sport et aux athlètes. Vous avez bien compris qu'un certain nombre de grands auteurs, qu'il s'agisse de dramaturges ou simplement même d'auteurs, venaient faire lecture de leurs travaux. Et donc, Hérodote lit son enquête, lit son historia. Et parmi tous les jeunes gens qui sont là, qui l'écoutent, il y en a un qui est plus attentif que les autres. Oh, c'est encore un enfant. Il s'appelle Thucydide. Il est ému, Thucydide, il est même fasciné par une sorte de révélation. Car ce qu'il entend lui parle. Cette histoire extraordinaire, il comprend que c'est beaucoup plus qu'une suite d'événements, des événements plus ou moins vrais, plus ou moins mythiques. Cette histoire, elle peut être racontée, elle peut être comprise et transmise, elle peut être une œuvre de raison et de vérité. Cette lecture publique qu'Hérodote donne de son histoire, de son enquête pendant ces Jeux Olympiques, qui sont sans doute ceux de 776 qui sont ceux de 300 avant Jésus-Christ, cette histoire, elle va frapper ce jeune cerveau. Et il se dit, le jeune Thucydide en écoutant ça, il se dit que ce que le père de l'histoire lui donne, c'est peut-être un peu plus qu'un exemple, c'est une piste à suivre. Quelque chose s'est éveillé en lui au milieu de ces tribunes d'Olympie. Alors, c'est vrai que dans son enquête, Hérodote a recueilli toutes sortes de renseignements. Il n'a pas vraiment fait le tri. Il a eu tendance à tourner le dos aux mythes chantés par les Aèdes et il a plutôt interrogé les marchands, les voyageurs, les habitants des différentes contrées dans lesquelles il a voyagé pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il rejette les légendes pour autant, ni même les on-dits. Il précise, je le cite, « Pour mon compte, ce qu'ils disent ne me convainc pas. » Ou encore il dit « Libre à qui trouvera croyable de telles histoires d'accepter ces récits que font les Égyptiens. Pour moi, mon seul dessein dans tout ouvrage est de consigner ce que j'ai pu entendre dire aux uns et aux autres. » Oui, il consigne Hérodote. Il sauve en quelque sorte de la mémoire, il la sauve à la diable et pour l'éternité. Il essaie de comprendre aussi comment les sociétés en sont venues là où elles en sont, pourquoi certaines entrent en guerre, comment les passions, les intérêts, les erreurs de jugement peuvent façonner les décisions humaines. Raconter l'histoire par la logique des hommes, proposer une analyse rationnelle des événements et de leurs causes, en renonçant à tout ce qu'il peut y avoir de merveilleux ou d'agréable dans le récit. Si, voilà quelle était l'ambition de d'Hérodote. Et cet agrément du récit, personne n'en est à l'abri. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on a tendance parfois à enjoliver un peu les choses. Ça peut arriver, disons. Mais quand le petit Thucydide, quand cet enfant qui écoute Hérodote avec attention fait une analyse, quand il fait retour en lui-même, il se dit qu'il y a peut-être mieux à faire. Il se dit que peut-être, au lieu de simplement consigner des faits qui ont été recueillis, on doit pouvoir les mettre en perspective et leur donner un sens et leur permettre d'expliquer la vie et le monde.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est né vers 460 avant Jésus-Christ, Thucydide, dans une famille tout à fait bien. Son père s'appelait Oloros, nom qui trahit une ascendance thrace et qui laisse entendre que la famille possédait des terres et des intérêts économiques dans toute cette région du nord-est de la mer Égée, territoire qui donc était, vous l'avez compris, stratégique, très important, avec en plus beaucoup de minéraux dans le sous-sol, beaucoup de bois également, il y avait des mines d'or au mont Pangée. Et d'ailleurs, Thucydide va hériter d'une de ces mines, et ça va le mettre à l'abri pour longtemps. Alors, on ne sait pas grand-chose de la jeunesse de ce garçon, aucun contemporain ne nous en parle véritablement, et lui-même, dans son œuvre, reste d'une discrétion, disons-le, assez remarquable sur son parcours personnel. Pourtant, il y a un certain nombre d'indices qui permettent d'émettre des hypothèses. Thucydide, probablement, a reçu une éducation poussée, une éducation digne de son rang. Il est permis de penser qu'il a fréquenté l'école d'Antiphon de Ramonte, qui est un des plus grands orateurs de son siècle, le père de la rhétorique judiciaire. Il aurait pu transmettre à Thucydide le goût de l'argumentation, du raisonnement structuré, de l'impartialité. Toutes ces qualités qu'on va retrouver dans l'œuvre majeure de Thucydide, et alors là on n'est plus du tout dans l'enquête généralissime d'Hérodote, on est dans un véritable travail d'analyse historique, ça s'appelle la guerre du Péloponnèse. Je vous lis les premières lignes de la guerre du Péloponnèse, où Thucydide va parler de lui à la troisième personne. Thucydide l'Athénien a raconté la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens. Il s'est mis à l'œuvre dès le début de la guerre car il prévoyait qu'elle serait importante et plus mémorable que les précédentes. Ce fut l'ébranlement le plus considérable qui remuait le peuple grec, une partie des barbares et pour ainsi dire presque tout le genre humain. Si nous ne savons pas grand-chose en vérité de la vie de Thucydide, on en sait, grâce à lui, un peu plus sur le monde dans lequel il est né. En 460 avant Jésus-Christ, donc au milieu du 5e siècle, la Grèce est tout juste sortie des grandes convulsions, ce qu'on appelait les guerres médiques. Vous savez, ces guerres contre les Perses, ces affrontements qui, une génération plus tôt, ont opposé toutes les cités grecques au gigantesque empire achéménide. Les armées des grands rois Darius, Xerxès, qui ont été repoussés à Marathon, contenus aux Thermopyles. Ça, c'était les 300 de Léonidas. Rappelez-vous, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Des armées qui ont été battues, les Perses, à Salamine. Athènes, vous le savez, a joué un rôle absolument décisif, un rôle militaire, c'est certain, mais aussi un rôle moral qu'on pourrait qualifier, nous, de politique. Cette victoire des cités grecques contre l'envahisseur oriental a renforcé chez les Athéniens la conviction qu'ils étaient appelés à un destin supérieur. Et la cité d'Athènes, quelques années avant la naissance de Thucydide, dans ce qu'on appellera le siècle d'or, cette cité d'Athènes dont les murailles ont été relevées, dont la flotte a été agrandie, dont les alliances se sont constamment renforcées, est devenue un pôle majeur de stabilité dans toute cette région hellénique. Et c'est sous l'impulsion d'abord de Thémistocle, puis de Simon, puis bien sûr de Périclès, qu'Athènes est devenue cette espèce de puissance dominante, puissance maritime bien sûr, à la tête de la Ligue de Délos, alliance défensive qui était née de la guerre contre les Perses et qui, assez rapidement, va se transformer en une alliance offensive parce qu'il y a un véritable empire athénien. Et donc l'époque est celle d'un double mouvement. Vous avez d'un côté Athènes qui est en train de s'étendre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et puis de l'autre, une montée des tensions, parce qu'il est évident que dans les autres cités grecques, cette suprématie d'Athènes commence à être inquiétante. À commencer par les Lacédémoniens. C'est à Sparte qu'on se pose des questions sur la cité rivale du Péloponnèse, bien entendu. Et il y a d'autres cités qui s'inquiètent de cette puissance athénienne. On est à l'époque là des sophistes, hein, c'est les tout débuts de la philosophie, les grandes constructions monumentales également. Sous Périclès, c'est la construction des grands monuments que vous connaissez sur l'Acropole. Il y a les grands dramaturges, Euripide, Sophocle, Socrate, qui va lui créer, à travers les écrits qu'en laissera Platon, la philosophie classique. C'est l'âge de la démocratie, bien entendu, l'âge de toutes les passions politiques aussi. Ben, voyez dans quel climat va grandir Thucydide, un monde où les idées circulent, où la guerre n'est jamais loin, où Athènes brille de mille feux, tout en s'engageant dans une espèce de spirale de conflit, parce que quand vous êtes une puissance montante de cette importance et que vous avez tendance à attirer à vous tout ce qu'il y a d'important dans votre monde, dans votre univers stratégique, eh bien, il est évident que ça crée des tensions et même que ça va basculer vers la guerre. C'est en 431 que la tension latente entre Athènes et Sparte va éclater. Ça y est, cette fois c'est la guerre, ça va durer 30 ans ce conflit, qui n'est plus seulement un affrontement militaire, hein. C'est un choc de deux puissances, un choc de deux modèles politiques. D'un côté, vous avez l'Athènes qu'on pourrait qualifier de démocratique et d'impérial, et puis de l'autre, en face, vous avez l'oligarchie traditionnelle des Spartiates. Toutes ces tensions couvaient depuis longtemps. Thucydide lui-même a identifié la cause profonde du conflit, c'est l'impérialisme athénien, c'est la domination d'Athènes sur les mers. Tout ça a transformé la Ligue de Délos en un véritable cheval de Troie pour une Athènes qui est toujours plus intransigeante envers ses alliés. Thucydide va être en quelque sorte l'homme de cette situation. Thucydide nous fait un récit terrible de la soumission du peuple de Mélos. Mélos, c'est une petite île tout à fait, comment on pourrait dire, sans défense, hein, une petite île pacifique. Là, l'île de Mélos a été complètement mise. Les Méliens ont été mis en coupe réglée par les Athéniens. Et les Méliens ont exposé leur volonté de neutralité. Ils ont demandé un peu de compassion de la part des Athéniens. Et Athènes a assiégé Mélos, a affamé cette île jusqu'à la reddition. On a tué tous les hommes en âge de se battre, on a réduit en esclavage les femmes et les enfants, on a laissé la cité en cendres, ce qui va faire dire à Thucydide, le fort fait ce qu'il peut faire et le faible subit ce qu'il doit subir. La procession nocturne de Franz Liszt par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Kurt Masur.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est en 424 avant Jésus-Christ que Thucydide est nommé stratège, c'est-à-dire magistrat militaire chargé de gérer les affaires publiques, hein, et les affaires militaires aussi de la cité. À peine nommé, il va devoir faire face à un événement qui est assez dramatique, c'est le siège d'Amphipolis, une cité stratégique qui a été prise par le général spartiate Brasidas. À ce moment-là, Thucydide ne peut pas laisser faire, enfin les Athéniens ne peuvent pas laisser faire. Il accourt, il arrive trop tard pour empêcher la chute, c'est pour Athènes un véritable désastre, et on est dans une démocratie à Athènes. Hein. Quand vous échouez de cette manière, il faut en subir les conséquences, et en l'occurrence, Thucydide est condamné à l'exil, un bannissement qui aurait pu marquer la fin de sa carrière. En réalité, ça va être le point de départ d'une autre carrière. Vous avez bien compris où se trouve l'ambition profonde essentielle de Thucydide. Hein. Lui, son idée, c'est de poursuivre l'enquête d'Hérodote, c'est d'aller chercher les causes des événements, se demander notamment pourquoi a eu lieu cette guerre, pourquoi elle a duré si longtemps, qu'est-ce qui a bien pu pousser les hommes et les cités et leurs dirigeants à prendre les décisions qu'ils ont prises. Thucydide est un véritable historien au sens où nous l'entendons, et je le cite. « En ce qui concerne les faits qui se sont produits pendant la guerre, il m'a semblé que le procédé correct ne consistait pas à fonder mon récit sur des informations transmises par des témoins quelconques ou sur mes propres impressions. Il fallait au contraire m'attacher jusqu'au moindre détail avec toute la précision requise, à la fois aux faits dont j'avais été moi-même témoin et à ceux que d'autres m'apprenaient. Cette méthode était pénible, car ceux qui avaient assisté à un événement donné ne disaient pas les mêmes choses sur les mêmes points, leurs déclarations étant influencées par leur sympathie ou leur mémoire favorable à tel ou tel camp. » Extraordinaire, cette ambition de Thucydide d'atteindre à ce qu'on doit pouvoir considérer comme une forme d'impartialité. Partialité à laquelle il n'atteint pas d'ailleurs, mais qu'il recherche, c'est déjà énorme. Il a une ambition, cet homme-là, c'est de bâtir une œuvre qui soit pas du tout un divertissement pour raconter l'histoire des siècles passés, comme le faisait Hérodote. Non, non, il veut lui constituer ce qu'il appelle un trésor pour toujours. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit lui-même. Si l'on peut y voir clair dans les événements passés ou dans ceux qui, à l'avenir, seront la loi des choses humaines et présenteront des similitudes ou des analogies, eh bien, cela me suffira. Les faits que je rapporte constituent un trésor pour toujours, plutôt qu'une production d'apparat pour un auditoire du moment. Voilà ce qu'est la guerre du Péloponnèse de Thucydide.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il ne va pas la finir, hein, cette guerre du Péloponnèse, Thucydide. En fait, il achèvera jamais son récit qui s'interrompt brutalement en l'an 411. J'ai retrouvé à peu près mes chronologies et mes dates. Vous aurez compris que je suis arrivé un petit peu essoufflé à ce micro. Il y a des jours où le métro est un petit peu poussif, disons. Peu importe, toujours est-il que nous sommes bien en 411 lorsque le récit de Thucydide s'interrompt, cette guerre du Péloponnèse, alors même que le conflit se poursuit pendant encore près d'une décennie. On ne sait pas pourquoi l'auteur a arrêté son récit exactement à ce moment-là, mais ce qu'on sait, c'est que Thucydide finalement a pu rentrer à Athènes après son exil et que peut-être il avait considéré l'écriture de ce livre que nous considérons nous comme une référence majeure. Il a considéré, lui, cette écriture comme une occupation d'exil, probablement. Thucydide n'a pas pu relater la guerre jusqu'au bout. La guerre en question, elle s'est conclue en 404 avant Jésus-Christ par la victoire de Sparte et la capitulation sans condition d'Athènes, la chute de son empire maritime et de sa démocratie, tout ça remplacé par un régime oligarchique, ce qu'on a appelé les 30 tyrans. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Bref, le retour de Thucydide à Athènes ne s'accompagne d'aucun rôle public connu. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de réhabilitation officielle de cet homme après le bannissement qu'il avait connu, après cet ostracisme. Mais il va y avoir, et pour nous c'est infiniment plus important bien sûr, il va y avoir le legs que son travail pendant l'exil a rendu possible, ce manuscrit qui a été conservé, copié, transmis, ce manuscrit qui sera ensuite complété par un autre historien, le grand Xénophon, qui reprendra le récit, lui, à partir de 411, c'est-à-dire exactement à l'endroit où l'avait abandonné Thucydide, Xénophon, avec ses Héléniques qui relatent l'histoire grecque durant le demi-siècle qui suit le récit de Thucydide. Le travail de Xénophon couvre un demi-siècle environ, de 411 à 362 exactement. Donc, l'œuvre de Thucydide aura été une œuvre fondatrice, au moins aussi fondatrice que l'avait été l'enquête que Hérodote avait baptisée son Historia et qui a donné le nom même de l'histoire. Est-ce que l'œuvre de Thucydide a été très connue des contemporains ? Pas forcément. On sait qu'il a été cité un certain nombre de fois par la suite par les historiens latins notamment. Et puis, on doit sa redécouverte essentiellement à des historiens modernes et anglo-saxons. D'abord, Hobbes, Thomas Hobbes, qui a été un des premiers traducteurs de la guerre du Péloponnèse. Là, on est en 1629. Hobbes voyait en Thucydide « the most politic historiographer that ever write », le plus important des historiographes politiques qui ait jamais écrit, disait-il. Et puis ensuite, il y a eu David Hume, qui a dit que les premières pages de Thucydide étaient, à son avis, le début réel de ce qu'on doit pouvoir considérer comme l'histoire. Ça, c'est Hume qui nous dit ça. Dans le sillage d'Hérodote, donc, qu'il avait entendu lors de ces Jeux Olympiques, dont il avait suivi en quelque sorte la lecture, alors qu'enfant, il était encore tout disposé à se laisser captiver, passionné par quelque chose de neuf, et Dieu sait que le travail d'Hérodote était neuf, eh bien, Thucydide a essayé de décortiquer le monde. Il a apporté une dimension supplémentaire à ce qu'on doit pouvoir appeler la discipline historique. Là où d'autres offraient des récits pleins de couleurs, de prodiges, de dieux en embuscade, de traditions dont certaines faisaient sourire, mais qui avaient au moins le mérite d'avoir été sauvées d'un oubli où la nuit des temps l'aurait sinon englouti, lui passait à autre chose. Lui passait à la rigueur, à la logique, au déchiffrement des motivations humaines. Et en ça, on peut dire qu'il est donc le premier des historiens, et son œuvre, aujourd'hui encore, continue de hanter les cercles du pouvoir. C'est assez étonnant de voir à quel point le nom de Thucydide est aujourd'hui unanimement cité. Alors peut-être aussi parce que l'historiographie anglo-saxonne et américaine en particulier a, depuis longtemps, occupé le haut du pavé, et que un certain nombre de ces historiens anglo-saxons qui ont été biberonnés à Thucydide ont tendance à citer celui qui est un petit peu leur modèle, d'une certaine façon. L'analyse que Thucydide nous donne des tensions entre une puissance établie d'un côté et une puissance montante d'une autre, en l'occurrence entre Athènes et Sparte, cette analyse des tensions trouve aujourd'hui, dans les rivalités que nous connaissons dans le monde actuel, évidemment des échos étonnants. Vous savez ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Hein, le piège de Thucydide, c'est cette théorie géopolitique selon laquelle les grandes guerres éclatent quand un ordre ancien est menacé par un ordre nouveau, ou une puissance qui a été impérialiste et expansionniste se trouve menacée par la montée d'une puissance de plus en plus dominante. Exactement ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis d'aujourd'hui. Et l'on reparle, évidemment, aujourd'hui, dans ce monde ancien menacé par un monde nouveau, on reparle du piège de Thucydide. C'est devenu, en quelque sorte, une grille de lecture pour nos contemporains. Thucydide nous parle peut-être aujourd'hui davantage qu'il parlait à nos aïeux et même à nos ancêtres. Thucydide nous parle aussi peut-être parce que, tout simplement, l'analyse qu'il a lancée, la méthode qu'il a mise au point, ont quelque chose de proprement révolutionnaire.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Gaspard Lemarinier et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck. Alors après cet historien grec, vous avez évoqué grec, je suis toujours fasciné dans l'histoire par les écrits que l'on retrouve de ces gens-là. Pour des périodes très très éloignées.
Oui, alors vous savez que tout ça est très lacunaire, évidemment.
Hein, bien sûr.
Et que nous n'avons pas notamment les sources d'un certain nombre des grands historiens antiques. Et nous nous disons, mais comment savaient-ils telle et telle chose ? Mais parce qu'eux avaient des sources qui depuis ont disparu. Ce qui compte, ce sont les écrits que nous avons réussi à conserver.
Alors, heureusement qu'il y a eu des écrits pour que vous nous racontiez cet après-midi Guillaume le Conquérant.
Par exemple.
C'est voilà. Une autre histoire, une autre démarche. Et on se retrouvera bien sûr demain matin.
À demain.
Bonne journée.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles. Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Marc Leroy-Calatayud. le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservé dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Le festival 1001 Notes célèbre 20 ans de musique et de fêtes. Vivez une édition exceptionnelle avec Nemanja Radulovic, Alexandre Tarot, Jean-François Zigel, Anne Kefelec, le duo Lucienne Renaudin-Vary, Félicien Brut et bien sûr Chloé Mézy aux commandes de l'Orchestre Symphonique 1001 Notes. Et pour clôturer cette édition spéciale, Mozart, par l'immense pianiste Katia Bougnatichvili. Le festival 1001 Notes à Limoges, du 15 au 19 juillet. Réservation sur festival1001notes.com.
Le Festival de Saintes vous embarque pour un voyage musical de 8 jours aux quatre coins du monde classique. Avec un récital lyrique de compositrice italienne du XVIe siècle, un détour flamand par Ophélie Gaillard, Bach et Lotti à l'heure suisse avec Liangeli Genève, les arts florissants en territoire allemand et les grandes heures symphoniques de Beethoven à Dvorak. Le Festival de Saintes, un univers musical à vivre intensément du 12 au 19 juillet. Détails sur abbayeauxdames.org.
Bonjour, c'est Ève Ruggieri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme lyrique avec Ève Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans, limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
midi, tous classiques, avec Christian Morin sur Radio Classique.
Bonjour, j'espère que vous allez bien, que pour certains d'entre vous, ce sont les vacances et qu'elles se déroulent au mieux. On va commencer ce matin en évoquant un jour anniversaire de la naissance d'Arthur Schnabel, qui était un des plus importants pianistes du siècle précédent, qui a notamment contribué à la redécouverte des œuvres de Schubert. On va l'apprécier dans un instant. Il est aussi le premier à jouer l'intégralité des 32 sonates de Beethoven. Pianiste, compositeur, pédagogue autrichien, né en 1882, la même année que Léopold Stokowski. Je le rappelle, c'est le fameux chef qui serre la main de Mickey dans Fantasia. Et son répertoire de prédilection, donc je vous le disais, va de Beethoven à Schubert. Enfant, il se fait rapidement remarqué par des prédispositions pour la musique. Il part étudier à Vienne dès l'âge de 7 ans, la théorie musicale, ainsi que le piano. Et puis il fait connaissance de Brahms, qui l'accompagne durant ses promenades dominicales. On va écouter ce pianiste, Arthur Schnabel, ici au piano avec son fils, Karl Ulrich Schnabel. Tous les deux vous interprètent la marche militaire numéro 1 de Schubert. Thank you. piano, avec son fils à ses côtés, interpréter la marche militaire de Schubert. On va écouter maintenant Alfred Brendel au piano. On peut considérer d'ailleurs Alfred Brendel comme le fils spirituel de Arthur Schnabel, en quelque sorte, le plus proche en tous les cas. Alfred Brendel, avec l'Académie de Saint-Martin in the Field et Sœurs Neville Mariner à la direction, interprète pour vous, sur Radio Classique, le deuxième mouvement, l'Adagio, du concerto pour piano et orchestre numéro 23 de Mozart. avec l'Académie de Saint-Martin in the Field, dirigée Sir Neville Mariner, vous écoutiez le deuxième mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 23 de Mozart sur Radio Classique, qu'interprétait Alfred Brendel. Alors tout à l'heure, on a entendu Arthur Schnabel et son fils, qui était pianiste comme lui. Là, nous allons retrouver Alfred Brendel au piano avec son fils à lui, Adrian Brendel, qui est violoncelliste pour cette pièce de Beethoven, le deuxième mouvement, le scherzo de la sonate pour violoncelle et piano numéro 3. Un Beethoven en famille, puisque c'est le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano numéro 3 que vous écoutiez, joué par Alfred Brendel au piano avec son fils au violoncelle, Adrian Brendel. Seul pour terminer cette première demi-heure, Alfred Brendel vous joue cette fantaisie capriccio pour clavier avec Joseph Haydn en signature. Thank you. Alfred Brendel interprétait la fantaisie capriccio pour clavier de Joseph Haydn pour terminer cette première demi-heure. Je reviens sur Arthur Schnabel rapidement, qui a joué souvent aux États-Unis et enregistré avec le violoncelliste Grégor Pietigorsky, également né un 17 avril à Yekaterinoslav. Il nous a quittés à Los Angeles en 1976. Je vous en parle tout simplement parce que nous l'écouterons après le flash de 10 heures avec Dvorak et le concerto pour violoncelle et orchestre, le final.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Cyrus Erez, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Erez, la gestion de fortune depuis 1989.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, cherchez une tondeuse, trouvez la Makita sans fil à seulement 135 euros. Se faire livrer rapidement, passez son samedi au grand air. Vous savez tout, en avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
La Fondation Orange fait vibrer la musique et les voix sur tous les territoires. Pour découvrir les actions de la Fondation Orange pour la culture, rendez-vous chaque mardi et jeudi à 14h59 sur Radio Classique.
Un secret inavouable, une passion interdite, une farce endiablée. Dans Il Trittico, œuvre à trois brefs opéras, Puccini excelle aussi bien dans la comédie que dans le drame. Portés par la saisissante soprano Asmik Grigorian, ses airs, souvent entendus au cinéma, sont à découvrir à l'Opéra Bastille du 29 avril au 28 mai. Réservation sur opéradeparis.fr.
Le concours international de musique de chambre de Lyon fête ses 20 ans en chantant. 4 jours de musique conçus comme un festival pour vibrer avec Brahms, Duparc, Schubert, Massenet ou encore les poèmes d'Arthur Teboul mis en musique par Jean-Patrick Besingrand. Un grand crescendo avec plus de 30 récitals voix et piano par de jeunes duos du monde entier jusqu'à la finale présentée par Judith Chen. Les talents se révèlent du 23 au 26 avril à Lyon. Réservation sur cmcl.fr.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Légué à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours.
Tout de suite, la Minute des Épargnants avec l'affaire.
Gérard Beckerman, bonjour. Comment appréhender la justice fiscale ?
Il faut remettre l'impôt à sa place. Pourquoi il est contesté, l'impôt ? Parce qu'il est excessif. Jean-Baptiste Serre, un grand économiste du 19e siècle, disait « Le meilleur de tous les impôts, c'est le plus petit ». Cessons de croire que c'est par l'impôt qu'on pourra être juste et réduire les inégalités. Ces inégalités, elles ne se vivent pas parce que les Français sont contribuables. Elles existent parce qu'ils sont consommateurs. La justice, elle implique une nouvelle philosophie des valeurs fondée sur le travail. Peggy le disait, le travail, c'est une prière.
Merci Gérard Beckerman.
Ensemble, construisons une génération d'avenir. Rejoignez l'Association française d'épargne et de retraite. Rendez-vous sur affaire.fr, affaire.fr.
Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel est confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Vous nous retrouvez sur Radio Classique, merci, il est 10h. Un point d'information avec Chloé Sénard. Bonjour Chloé.
Bon.